Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. Un site a été aménagé dans la commune de Kinshasa pour accueillir les expulsés des Brazzaville. Sur place au stade Cardinal Malula et dans la concession de la maison communale, près de 3000 âmes y sont hébergées. La prise en charge et les conditions d'hébergement de ces retournés posent problème. Ceci relance le débat sur la gestion des situations d'urgence et autres catastrophes qui surviennent à travers le pays. Quel regard portez-vous sur la gestion des urgences et autres catastrophes dans votre milieu? 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Willem Lungamba. J.R. Lungembo sur la coordination et la réalisation, et Pierrot et Lamenji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Nous avons associé à cet échange Dr Richard Mukelenge, un spécialiste en santé publique et diplômé en gestion des catastrophes et des urgences. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Que ce soit de catastrophes liées aux accidents de circulation, aux naufrages, aux déraillements, que ce soit la situation aussi provoquée, comme le cas échéant, par l'expulsion des Congolais vivant à l'étranger, on a vu avec ceux qui étaient en Angola, mais cette fois-ci avec ceux qui vivent, qui vivaient au Congo, au Brazzaville. Mais le problème avec nous dans cet échange, c'est comment, dans votre milieu, vous faites face au cas de situations d'urgence et autres catastrophes dans votre milieu. Ce qui s'est fait à Kinshasa, c'est par rapport à ceux qui sont expulsés au Congo, du Congo Brazzaville, mais vous aussi dans votre milieu, il arrive que vous puissiez connaître des drames, que ce soit un accident de circulation, un déraillement, un naufrage. Comment vous organisez-vous dans votre milieu pour faire face à ces cas des catastrophes et autres urgences? Quel regard vous portez sur l'organisation de la politique en matière des urgences et autres catastrophes dans votre milieu? Voilà, nous en parlons avec vous dans cette émission, et nous allons d'un moment à l'autre pouvoir joindre Dr Richard Mukelenge. Dr Richard Mukelenge, si vous êtes en train de nous suivre, on a des petits soucis pour vous joindre en ce moment sur vos trois lignes de téléphone. S'il y a moyen de pouvoir les apprêter, ça va nous permettre de pouvoir échanger avec vous qui êtes associé dans cette émission comme expert en gestion de catastrophes et autres urgences. Nous avons en attendant des auditeurs comme Omar ici à Kinshasa, Théodore qui est en Bujima au Kassai Oriental, Lagilo Academy à Kinshasa, en Bujimai, Tukuma Academy. Des cas de catastrophes sont déjà survenus, des cas de drames sont déjà survenus, des accidents, des déraillements et tout cela. Comment vous faites face à cela dans votre milieu? Nous sommes ici à Kinshasa avec vous, Omar, bonjour.
Bonjour Pierre et Lamé, j'ai bon début de la semaine à tous les auditeurs de la Radio Pacifique.
Merci beaucoup. Nous parlons de la gestion des catastrophes et autres situations d'urgence, et par rapport à Kinshasa, c'est l'actualité liée bien sûr à ceux qui sont expulsés du Congo Brazzaville. Quel est le regard que vous portez sur la gestion de ces situations dans votre milieu?
Merci beaucoup Pierre. La parole par vous, Madjudje. Avant de faire allusion à la gestion des catastrophes au Congo, je voudrais d'abord rappeler à tout le monde que l'acte posé des refoulements par le Congo Brazzaville, ce n'est pas une polémique, c'est un acte qui viole le droit humanitaire. Dans la mesure où toute personne, peu importe les lieux où se trouve, a droit à la dignité. Et la gestion des catastrophes ne concerne pas seulement un État, mais c'est une affaire de tout le monde. Voilà pourquoi les États, à travers l'ONU, se sont résolus de protéger la dignité humaine et de faire face aux différentes calamités qui peuvent arriver. Je voudrais d'abord citer cet acte parce que c'est inhumain. Il suffit de faire un tour là où ils sont. C'est désastreux et ça fait mal à voir. Il n'est pas interdit de chasser quelqu'un qui est dans l'irrégularité, mais il faudra le faire selon la procédure prévue par le texte international et national. C'est dans le cas de l'Angola qui veut aujourd'hui expulser les irréguliers. Il a commencé par prévenir tous les irréguliers pour qu'ils prennent des mesures. C'était juste une introduction Je voudrais maintenant passer au sujet.
Et oui, Omar, d'ailleurs, pour aider aussi à compléter votre introduction, nous disons déjà aux auditeurs qu'on prend rendez-vous le lundi. Vous savez, on va ouvrir la semaine, bien sûr, avec l'angle et notre angle de cette situation des expulsions. Mais cette fois-ci, nous allons voir des mesures en termes de solutions diplomatiques, ce que les auditeurs proposent pour qu'on puisse régulariser cette situation. Et ça sera le débat pour lundi prochain. Plutôt que nous puissions revenir là-dessus aujourd'hui, nous parlons de la gestion des urgences, des catastrophes. Mais le lundi, on va revenir avec vous, ensemble avec tous nos auditeurs, hein, pour voir cette situation d'expulsion, mais explorer des pistes diplomatiques qui peuvent nous permettre de trouver solution à cela. C'était juste la parenthèse. Mais vous pouvez continuer, Omar.
Merci, Pierrot. Excusez-moi d'avoir anticipé. C'est juste la tristesse qui nous anime, mais excusez-moi sincèrement.
Mm-hmm.
Je veux seulement dire que la gestion des catastrophes est une question étatique. Dans notre pays, il existe la Constitution, ainsi que d'autres textes, je ne voudrais pas les citer pour faute du temps, qui obligent au gouvernement de savoir faire face aux risques. Il existe tout un ministère des Affaires sociales qui a une mission légale de recourir aux catastrophes qui peuvent arriver. Tel est le cas, n'est-ce pas, des gens refoulés. Il existe au sein de ces ministères un fonds qu'on appelle un fonds de réaction rapide pour les cas urgents comme ceux qui sont intervenus. Il existe aussi un cas préventif. Mais la question que nous nous demandons, lorsque nous essayons de scruter la réalité sur terrain, comparer la cohérence de ces textes qui prévoient ce que nous voyons, mais le bilan est toujours négatif. Je voudrais seulement rappeler que la gestion est organisée par la loi. Il est prévu que chaque État puisse prendre des mesures, tant préventives qu'urgentes, pour faire face à cela. Il y a même des budgets qui sont affectés. Mais qu'est-ce qui fait que chaque fois qu'il y a de tels cas, la solution n'est pas heureuse? Nous ne demandons pas à l'État congolais de faire mieux ou de transformer cet État en paradis. Mais nous voulons un minimum de volonté. Pourquoi je l'ai dit? Allez faire un tour là où ces gens sont logés. Ils sont là très nombreux, ils dorment à même le sol. Il a plus ces derniers jours. Il y a même des enfants d'une année qui manquent où s'abriter. Nous parlons de cela parce que nous dormons dans des maisons. Allez faire un tour là-bas. Il n'y a que 3 toilettes alors qu'il y a plus de 1000 personnes. Il y a des gens qui savent même où partir. Dans la vie, le risque est toujours inhérent à la vie de l'homme. Et tout État sérieux doit prendre des mesures. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cela? J'ai rappelé, M. Pierrot, qu'il existe des textes. C'est déjà prévu. L'État doit savoir gérer de tels cas. Il y a seulement un problème, c'est la première solution, un minimum de volonté politique. La volonté politique voudrait que notre État soit préventif. Il ne faut pas que ce soit un État qui aime trop la surprise. Un État sérieux doit savoir prévenir de tels cas. Un budget pour dire. Lorsque le cas intervenant, nous agirons. Aujourd'hui, c'est honteux qu'on voie le Médecins sans frontières amener de l'aide. Mais où est notre État? Nous ne demandons pas à l'État de prendre tout en charge, mais un minimum, même ce minimum-là n'est pas atteint. Premièrement, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de la part de ceux qui nous gouvernent. Ils doivent affecter des budgets aux dépenses qui ont été affectées. Les deux, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, au niveau de chaque, excusez-moi, de chaque État.
Voilà, on a des petits soucis avec Omar de Kinshasa. Omar qui a fustigé, bien sûr, la procédure dans l'expulsion, mais nous avons dit qu'on va revenir la semaine prochaine avec les débats autour de solutions efficaces pour mettre fin à cette situation. Mais dis-moi, par rapport à ce qu'on doit faire pour faire face aux
convois
et catastrophes, il insiste beaucoup sur le minimum de volonté politique et des prévisions. On doit avoir un budget conséquent, bien sûr, alloué au secteur des affaires sociales, au ministère des affaires sociales et affaires humaines.
Normalement, je pense qu'il
faut dire, voilà, au cas où... Voilà le minimum, c'est que nous pouvons arriver à faire. Mais pour y arriver, il faut avoir une volonté politique affichée. Merci beaucoup, Omar de Kinshasa. Théodore, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, Théodore, à Kinshasa.
Bonjour.
Oui, bonjour. À Kinshasa, on a évoqué la situation.
Oui, c'est Théodore en Boujimaï.
Oui, nous sommes avec vous sur les antennes. À Kinshasa, je le disais tout à l'heure, on a évoqué les cas des expulsions du Congo au Brazzaville, mais il n'y a pas aussi, dans un passé récent, en Boujimaï, on a eu un drame qui est survenu suite à l'explosion d'un dépôt de munitions. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des morts. Ce sont des situations d'urgence comme ça qui surviennent. Alors, et en Boujimaï, par rapport à ça, parce que c'est un drame qui est arrivé, et comment, quel regard avez-vous porté sur l'organisation de la gestion et des interventions dans ces cas de ces drames qui est intervenu l'autre fois en Boujimaï?
Bonjour et merci pour la parole. L'état d'urgence pour la bonne gouvernance doit interpeller d'une part le gouvernement, les organismes internationaux et les ONG de développement. D'avoir d'abord l'amour du travail et les savoir-faire dans le cadre humanitaire. Ceci pourra amener chacun à faire rapport d'urgence pour connaître les sites, d'abord les sites à exploiter pour les sinistrés ainsi que des refoulés, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, et voire même du Sud. C'est ainsi, en ce qui concerne Boujimaï, vous savez, ici, il y a eu des refoulés qui étaient venus du Katanga à l'époque. Ils étaient là, ils étaient abandonnés au centre-ville, à la mairie là-bas, ils étaient là. Mais il fallait voir comment ces gens vivaient. Il y avait même des mamans dont les pieds gonflés, des maladies, tout ça. Et le gouvernement provincial avait pensé à les écarter de la ville pour les envoyer à 5 kilomètres en dehors de la ville. On avait un peu construit quelques tentes là-bas, ils étaient là, bon, ils ont beaucoup souffert. Rien n'a été apporté à leur soins, tout ça. Et dernièrement, il y a eu catastrophe sur les explosions des missiles et consorts. Mm-hmm. Et tout cela, c'est le gouvernement au niveau national qui avait envoyé des moyens. On a essayé de distribuer l'argent pour reconstruire les maisons et pour prendre soin des malades et consorts. Et cela a été bien, mais chaque fois, nous demandons que je propose quelque chose. Si le gouvernement ne peut pas maîtriser toutes les situations humanitaires pour l'acheminement des vivres, et d'autres frais à remettre, il faut quand même chercher soit dans les cadres sécuritaires, parce qu'il y a un camion qui peut quitter de Lusambu pour amener les vivres de l'autre côté. Mais vous trouvez les coupeurs de route sur la route. Tout cela, ça décourage les organismes internationaux. Que cette gestion soit cédée auprès des ONG de développement neutre et religieux sous les vigilantes de l'État à travers ce ministère des Finances et Budget. Voilà ma préoccupation.
Merci beaucoup Théodore, vous avez donné deux exemples en Boujimaï, il y a eu des gens qui ont été expulsés de la province du Katanga, le gouvernement dans les temps avait aménagé un site en dehors de la ville pour les accueillir, mais les gens semblaient être très très abandonnés. Dernièrement, avec l'explosion d'un dépôt de munitions en Boujimaï, le gouvernement central est intervenu pour donner des moyens aux sinistrés, afin que les gens puissent reconstruire de maisons. Mais vous pensez que l'État peut travailler avec des ONG à qui peut remettre des moyens sous la surveillance du ministère des Finances pour dire voilà comment ces ONG peuvent aider l'État à pouvoir faire face au cas d'urgence et au cas de catastrophes qui surviennent ça et là à travers le pays. Merci beaucoup Théodore. La Guilloire, vous êtes à Kalemie dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour Diego et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Et des fois, il est arrivé aussi que des inondations puissent semer la désolation à Kalemie, hein, sans faut aussi tenir compte d'autres cas qui arrivent. Et dans ces cas, comment à Kalemie on s'organise pour faire face à ces cas de d'urgence?
Merci Diego pour la parole. Et je remercie un peu les précédents amis auditeurs qui sont dans le débat. Ici chez nous, la gestion des catastrophes humanitaires. Nous saluons l'effort des autorités provinciales et tant aussi nationales, du fait qu'on a constaté depuis la catastrophe de passée des inondations chez nous en Kalemie. On a vu le gouvernement provincial, à travers le gouverneur Moïse Katumbi-Kapwe, a disponibilisé vraiment un fonds et que cette population qui est fictive est tentée, même à présent que je suis en train de vous parler, la population continue à bénéficier. Certains sont en train de bénéficier de 50 000, 100 000 francs. Selon les dégâts qui sont venus dans leur maison. Mmh. Et c'est pourquoi nous, à travers des dégâts de catastrophe, nous demandons au gouvernement de la République du Congo d'avoir déjà des stratégies. Et puis aussi l'autorité budgétaire qui est le Parlement, qui puisse aussi allouer, qui puisse louer aussi un montant qui est un peu suffisant pour le ministère des Affaires sociales. Parce que si cela n'existait même pas, et aujourd'hui, la population de Kalemie ne devrait pas bénéficier. Nous saluons aussi l'effort vraiment du gouverneur Moïse Katumbi. Quand il promet, il réalise. Mm-hmm. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait aussi le suivi. Quand il y a un projet, il faut que ce projet puisse se réaliser. Et je vais demander aussi aux autorités, et j'ai entendu un des députés dire qu'il faut qu'il y ait aussi des réponses suite au cas de refoulement des Congolais. Non, nous connaissons qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels on trouve les Congolais. Mais si on fait la revanche, les Congolais là qui se trouvent au Congo-Brazza seront traités de quelle manière? Et non seulement faire des revanches, mais nous devons aussi nous poser des questions, nous les Congolais. Pourquoi nous quittons notre pays? Quelles sont les conséquences et quels sont les avantages quand nous quittons? Si je rentre chez nous, qu'est-ce que je dois faire? pourquoi nous quittons le pays.
Voilà, merci. Merci beaucoup, la Guillois. Et c'est comme je le disais tout à l'heure à Omar, hein, par rapport aux pistes et des solutions. Il y a beaucoup de gens, il y a eu des manifestations en Europe, ici à Kinshasa aussi, des gens qui ont réclamé des réponses fortes par rapport à cette situation de Congo-Brazzaville. C'est pour cela que j'ai dit, on va se retrouver pour compléter l'émission. Ça sera le lundi. Dans ce studio, on pourra encore se pencher sur la situation des expulsions. Et là, on va explorer les pistes et des solutions efficaces pour permettre à ce que tout se fasse en ordre. Ça sera pour le lundi prochain. Mais merci beaucoup pour votre contribution. Il y a eu l'intervention du gouvernement provincial quand il y a eu les cas de catastrophes et des inondations à Kalemi. Ça a permis quand même aux gens d'être relogés. Mais là, il y a un problème, c'est qu'il faut qu'il y ait déjà une stratégie définie en amont par le gouvernement pour faire face aux urgences qui arrivent. Mais il faut aussi un budget qui doit permettre au ministère des Affaires sociales d'accomplir vraiment, de jouer son rôle comme il faut. Merci pour toutes ces propositions. Notre invité est déjà en ligne, mais en attendant, on écoute Franck qui nous appelle de Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour Monsieur Pirot, bonjour à l'invité, aussi à tous les amis fidèles de la Radio Capi.
Voilà, et nous portons le regard aujourd'hui sur notre politique hein, de gestion des urgences, des catastrophes qui arrivent à travers le pays. Tout est parti bien sûr de la prise en charge de ceux qui sont expulsés du Congo-Brazzaville, mais il y a eu des cas, par exemple un drame dernièrement à Kikwit avec les gens qui se sont bousculés au stade, il y a le naufrage sur le lac, sur le fleuve, il y a la stratégie définie en déraillement de train avec des urgences qui arrivent et dans l'ensemble qui doit pour vous de la manière dont nous accomplir vraiment de façon de gérer c'est vraiment catastrophe comme il faut.
Merci beaucoup pour
qui nous appelle
tout comme notre Pierrot, bonjour RDC, amis fidèles des capacités pour gérer
et nous portons les
catastrophes
politiques hein.
Ici aussi il y a lieu de rappeler
des urgences
mais ça n'en fait pas d'avant
à travers le.
Donc c'est quelque chose qui
est de la prise en charge
imprévue.
C'est du Congo-Brazzaville.
Personne ne peut déjà.
Mais il y a eu deux cas.
Demain ou après demain, peut nous arriver.
Gens qui se sont.
Par rapport à tout ce qui nous arrive dans la vie. Il y a des dispositions juridiques, humanitaires, qui peuvent déjà être prises et aussi penser avoir un personnel approprié, qualifié pour la gestion de tels cas. Bon. Vous avez déjà dit que c'est lundi qu'on va traiter de ces cas de refoulés de Brazzaville. Donc, les cas que nous sommes en train de gérer par rapport à ces refoulements massifs, c'est déjà un cas qui ne respecte aucune disposition juridique, diplomatique ou humanitaire. Donc, c'est un peu difficile de le prendre comme un paradigme. Mmh. Mais dans la plupart des cas, dans certains pays qui se respectent, il y a toujours dans les paquets budgétaires un certain pourcentage réservé et alloué pour de tels cas. Mais seulement si nous devons revenir chez nous, au pays, à RDC, si nous savons déjà que de l'intérieur du pays, le social de la population, de la couche moyenne, n'est pas encore en place, c'est un peu difficile de croire qu'il y a aussi dans les paquets budgétaires un pourcentage réservé pour de telles situations. C'est comme ça que de plus en plus, nous nous rendons compte que notre pays est souvent pris en étau par les événements de ce genre quand ceci arrive. Mmh. Donc pour le prévenir, pour le cas de ce qui se passe entre Kinshasa et Brazzaville, il faudrait qu'il y ait quand même une concertation de certains ministères, ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, Affaires sociales et humanitaires, de la Santé, de la Justice et des Finances et Budget, pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour trouver des solutions le plus vite possible. Et aussi, il faut avoir un personnel qualifié pour la gestion de telles situations. Mmh. Donc, ça dépasse un peu l'entendement normal, quoi. Donc, c'est un peu trop la manière, quand on voit comment cela se fait. Donc, on peut condamner le gouvernement, on peut, mais c'est une situation qui est arrivée. Nous devons d'abord nous assumer. Mais aussi, nous devons dire que gouverner, c'est prévenir. Donc, il ne faut pas attendre que les situations arrivent pour trouver des solutions immédiates, mm-hmm. mais il faut déjà, au niveau des textes légaux, comme le disait le compatriote Omar,
oui.
prévoir certaines dispositions en cas où ceci arriverait, par où nous allons commencer. Sinon, on serait toujours pris en étau et on va cibler tel, alors qu'il y a aussi des histoires qu'on peut prévenir et éviter d'avance. Quoi. Mm-hmm.
Voilà. Merci, merci beaucoup, Franck. C'est important. Il faut qu'on soit aussi prévoyant. C'est vrai qu'on ne s'attend pas demain qu'on ait une telle catastrophe, qu'il y ait un tel événement, mais on doit être déjà paré en avance sur le plan budgétaire, avec des moyens, de matériel, des personnels formés et qualifiés qui sont là pour réagir d'une manière rapide quand une catastrophe arrive, au lieu d'éviter d'être pris en étau, comme c'est le cas à chaque fois quand il y a des cas, que ce soit pour les expulsions, que ce soit pour des drames qui arrivent sur le rail, que ce soit sur le fleuve, le lac, tout ça. Mais tout doit être préparé en amont par le pouvoir public. Merci beaucoup, Franck. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez aussi intervenir pour nous faire les témoignages sur la manière dont les urgences et les catastrophes sont gérées dans votre milieu. Ce que vous proposez pour améliorer cela, au 081-890-49-69. 081-890-49-69. Tout à l'heure, nous allons accorder la parole à notre invité, Dr Richard Mukelenge.
C'est parce que Radio Kapi Uni le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Docteur Richard Mukelenge, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Merci d'avoir accepté.
Bonjour aussi à tous les auditeurs et merci pour avoir porté votre intérêt à ma personne pour accompagner les Congolais et pourquoi pas le monde qui regarde la catastrophe humanitaire qui s'est abattue sur les Congolais expulsés de Brazzaville.
Voilà. Et vous, en tant que spécialiste en santé publique, vous avez cette gestion de catastrophe et urgence. Vous avez travaillé dans l'humanitaire, je me rappelle bien, c'était lors de la guerre de Burundi, une expérience internationale. Alors, avant peut-être de considérer les faits sur terrain, quels sont les principes des bases pour un État qui doivent être respectés, pris en compte dans la gestion de catastrophes et urgences?
Merci pour la question. Une question qui paraît beaucoup plus complexe. Voici ma modeste réponse. Un État qui se respecte dans la gestion des catastrophes et des urgences doit savoir travailler en amont, c'est-à-dire avant l'apparition de problèmes. C'est à ce niveau que on met en place ce qu'on appelle le tableau de contingence par rapport aux différentes figures qui peuvent apparaître. Voilà. Si on fait comme ça, on ne sera pas surpris. Je donne un exemple. Vous voyez le versant des terres bâties regardant l'université de Kinshasa.
Oui.
Cette partie-là est potentiellement écroulable facilement par les pluies. Lorsqu'on considère la qualité du sol, c'est un sol sableux, et les gens ont bâti, ils n'ont presque pas mis des arbres et d'autres végétations pour arrêter l'écoulement de la terre. Donc, potentiellement, cette zone-là est à surveiller. Alors, ma question, est-ce que le bourgmestre de la commune de Mongafula a un tableau devant lui reprenant cette partie de terre? Je ne pense pas. Il y a l'autre versant qui est bâti quand vous commencez à observer tout ce qui est en face de CNPP, en face des cliniques universitaires, dans l'autre versant de la route, on a bâti des maisons. Mais sur quelle terre? C'est une terre sableuse. Donc, potentiellement écroulable par les pluies torrentielles. Est-ce que quelque chose est prévu là-dessus? Voici la petite réponse. Et
mais
puis,
quand...
à part l'amont, il faut regarder en aval. Quand il y a catastrophe, qu'est-ce que nous avons retenu? Qu'est-ce que nous avons en main par rapport aux différents tableaux de contingence? C'est ça le grand problème. C'est ça le gouvernement.
Oui, Dr Richard, oui,
c'est
voilà.
C'est ça le gouvernement responsable.
Voilà. Vous dites que la première chose à faire, c'est d'avoir un tableau de contingence. Qui doivent en principe élaborer les tableaux de contingence au niveau du pouvoir public? Qui entre en ligne des comptes dans l'élaboration de ces tableaux?
Vous avez le ministère en charge des catastrophes. Vous avez les programmes intégrés dans ces ministères qui regardent les catastrophes et les urgences. Et puis vous avez les structures qui ont la logistique. Sous d'autres cieux, la gestion des catastrophes n'est plus un problème d'un ministère, n'est plus un problème d'un programme dans un ministère, mais c'est un programme, un holding de gestion des catastrophes, mmh. Qui prend en compte le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, la police, et puis d'autres services comme la Croix-Rouge et les humanitaires qui sont dans le pays, qui peuvent être mobilisés en cas de catastrophe. Donc, c'est ça, c'est un holding de gestion des urgences et des catastrophes. Parce que je prends, j'ai cité l'armée. L'armée peut mobiliser ses hélicoptères, l'armée peut mobiliser ses bateaux, il peut mobiliser ses véhicules, etc. L'armée peut mobiliser, si notre armée en a, des tentes. Parce que quand ils font des guerres, ils font des campements, ils sont sous des tentes, ils ne sont pas à l'abri, ils ne sont pas à la belle étoile. Donc, quand ils se reposent, c'est sous des tentes. Est-ce que tout ça, c'est prévu? C'est pourquoi, sous d'autres cieux, c'est un holding de gestion de catastrophes et des urgences.
Qui prend en compte, oui.
Un ministère, ce n'est pas un programme dans un ministère qui s'en occupe. Mm-hmm. C'est un grand problème, une situation gigantesque à gérer qu'on ne peut pas laisser au niveau d'un ministère. Au ministère de la Santé publique, par exemple, il y a un programme des urgences et des catastrophes. C'est un petit bureau qui ne peut même pas soulever son petit doigt pour parler. Voilà.
Voilà, on vous garde en ligne. Le premier pas d'abord, c'est d'avoir au niveau du pays un tableau des contingences avec des intervenants. Et puis, c'est une question transversale. C'est pas seulement c'est le ministère, c'est les efforts conjuguer autant de ministères qui peuvent arriver à résoudre le problème des urgences et des catastrophes. On va cheminer avec vous parce qu'il y a aussi les auditeurs avec leurs témoignages. Vous avez suivi des parts et d'autres. Mais on a toujours cette tendance à voir que les interventions sont plus conjoncturelles que structurelles. Pourquoi on arrive souvent à ces interventions qui sont conjoncturelles, docteur Richard, et alors qu'on a tous ces spécialistes dans la gestion des urgences et des catastrophes et des bureaux qui existent déjà?
Oui. Tout ceci, c'est parce que c'est lié, comme je peux dire, aux habitudes des individus. Ça, c'est un. Deuxièmement, aux habitudes de ceux qui gèrent, ceux qui gèrent les affaires, qu'on appelle gouvernement. Je peux donner un petit exemple. Au niveau des individus, vous savez que la plupart des ménages en RDC, surtout à Kinshasa, ont fait le marché au jour le jour. Mmh. Donc, on est plus des épicuriens, des carpédiens. On vit la vie aujourd'hui, pas demain. Ok. Alors, au niveau du gouvernement, je vous réfère avec toute modestie à ce qui s'est passé par rapport à l'intervention de la RDC lorsque nos frères haïtiens étaient en catastrophe humanitaire parce qu'il y a eu tremblement de terre là-bas. Le gouvernement Mozito avait posté de l'argent au niveau du PNUD. Donc, 500 000 dollars
oui,
qu'on devait envoyer en Haïti. Alors que les Américains avait dépêché sur le terrain M. Bill Clinton, ancien président, qui avait porté la tenue de la Croix-Rouge américaine, on lisait Red Cross, American Red Cross, et puis c'est lui qui distribuait, on a vu, de l'eau, des biscuits, etc. Alors, chez nous, personne ne s'est pointé. On a posté l'argent. Vous voyez un peu ça? Voilà, les deux images nous montrent bien que notre culture n'est pas la culture de gérer les catastrophes. C'est la culture de gérer les conséquences des catastrophes. C'est-à-dire, quand il y a des morts, on fait un grand deuil, on dépense beaucoup d'argent, et puis voilà. Voilà ce qui est, ce qui nous plaît. Voilà. Après, avant ça, il n'y a rien.
Il y a beaucoup de questions autour de ça. Il y a aussi ce programme, parce qu'on va revenir à vous le temps d'écouter aussi les auditeurs. Il y a cette préoccupation. Comment s'inscrit le préparatif? Faudrait-il avoir des formations au niveau de l'université, au niveau des écoles, intérioriser déjà la notion de la gestion des catastrophes? On va revenir à vous pour en parler. Le temps d'écouter Martin qui est à Lubumbashi et Richard à Kinshasa, 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Martin, vous êtes avec nous de Lubumbashi au Katanga, bonjour. Martin, vous êtes avec nous, bonjour. Martin, bonjour. Voilà, la ligne est disponible, mais Martin, lui, il n'est pas disponible, dommage. Nous allons retourner ici dans la capitale. Richard, vous êtes avec nous, ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Merci d'avoir Richard comme notre invité et vous aussi dans l'émission. Vous avez suivi votre mot, Richard, notre invité, par rapport à la gestion des catastrophes, des urgences, avec la situation par exemple que nous gérons maintenant, les expulsions de ceux qui vivaient à Brazzaville. Il se pose un problème, comme le disait, c'est l'absence de tout le préparatif. Alors, à quoi attribuez-vous l'absence de ces préparatifs dans la gestion des catastrophes et urgences, Richard?
Merci beaucoup Pierrot, merci également à la Radio Capi pour l'occasion qu'elle nous offre pour être éclairée sur ces dossiers. D'ailleurs, je remercie sincèrement notre invité, Dr. Richard, pour m'avoir donné beaucoup d'éclairage au sujet de la gestion des catastrophes. Mais je voudrais intervenir, moi, en donnant un témoignage concernant ce que j'ai vécu en ce qui concerne la gestion de la catastrophe. Et cela, je voudrais contredire ce que notre ami, notre compatriote de Mbujimayi a dit tout à l'heure, celui de M. Théodore. Parfois, oui, il n'avait pas vécu ce qui s'était passé aux années 90, au moment où le Kassaïen quittait Katanga pour Mbujimayi. Et il y a eu ceci. D'abord, quand le Kassaïen sont arrivés à Mbujimayi, il y a eu, on a trouvé une certaine solidarité.
Mm-hmm.
Alors, c'était toute la province. À l'époque, c'était la région. La région du Kassaï-Oriental était mobilisée. Nous avons vu les confessions religieuses, le Diamantaire, la société Miba. À ce moment-là, Miba était au sommet. Tout le monde était mobilisé, avant même l'intervention de l'État, tout le monde était mobilisé pour accueillir ces gens-là. Mais c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui avec nos frères qui viennent de Brazzaville. Et nous osons parfois donner tort à l'État, mais nous, Kinshasa regorge combien d'églises, combien d'associations caritatives. Donc tout ça, nous devons venir en aide à ces frères-là. Nous devons nous cotiser. Et aussi, pour terminer, puisque je ne voudrais pas un peu être long, aujourd'hui, en Mbujimayi, il y a un quartier appelé Tchibombo-Tchimoigne. C'est un site qui a été octroyé par l'État congolais à ses aïrois de l'époque pour construire. Et si vous arrivez maintenant en Mbujimayi, vous allez trouver que le site Tchibombo, en tout cas, c'est beau à voir. C'est comme, par exemple, Cité Verte ici. Bon, tout ça, c'est, vous voyez, il ne faut pas tout d'abord condamner l'État, mais qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de la solidarité congolaise? Qu'est-ce que nous faisons pour nos frères qui sont arrivés? Les prêtres, les bishops que nous avons ici, les associations caritatives, qu'est-ce que nous faisons pour éviter, par exemple, cette catastrophe-là? Voilà ma contribution.
Voilà, Richard, mais c'est important. Richard, mais vous n'allez pas quand même partir comme ça, parce qu'il y a quand même une préoccupation importante. Vous dites qu'il y a ces problèmes de solidarité qui se posent. C'est vrai. Quand on regarde aujourd'hui la situation à Kinshasa, on ne sent pas cet engouement-là. Il y a des églises, des confessions religieuses, vous l'avez dit. Il y a des ONG, il y a des organisations qui sont nombreuses à Kinshasa. Mais pourquoi on ne sent pas cet élan de solidarité se soulever aujourd'hui à Kinshasa pour que les gens aillent vers ceux qui viennent de Congo-Brazzaville pour faire quelque chose? Et tout le monde a tendance toujours à pointer du doigt l'État. C'est qu'il y a aussi, ils ont aussi raison. Mais pourquoi on ne sent pas cet engouement-là de la population à aller vers eux pour les aider?
Bon, je vous parle en tant qu'acteur de la communication. Nous n'avons pas cette culture-là de solidarité, nous, Congolais. Nous avons un grand devoir, nous, acteurs de la communication, pour éduquer cette population. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Et aussi, surtout dans notre attribution, dans nos attributions, nous, acteurs de la communication, nous devons faire voir aux Congolais que le Congo est un pays étranger. Ce n'est pas ébalé, comme on dit, le pango ébalé. Non, non. Ça, c'est un pays étranger.
Voilà. Ah, désolé vraiment qu'on a perdu Richard alors qu'il est en train d'expliquer ce qu'on doit sensibiliser. Ça dit qu'au-delà du fait qu'il y a l'État à côté, mais il y a aussi la solidarité qui devrait faire un principe aujourd'hui, qu'on voit des Kinois se mobiliser, des églises. On sait bien sûr qu'il y a beaucoup de croyants qui sont partis de Congo-Brazzaville, parce qu'il y a des églises de Kinshasa qui ont aussi des représentations Congo-Brazzaville. Il y a beaucoup d'ONG, d'organisations caritatives. Richard souhaite que tous pouvaient être engagés vraiment à pouvoir aller vers ceux qui sont venus pour les aider, et bien sûr à côté de ce que l'État peut faire. Merci beaucoup Richard. Nous allons à Kisangani en province orientale. Pichou, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour les auditeurs de l'émission Parole aux auditeurs.
Pichou,
intervenir pour les cas que nous venons de connaître là pour nos frères. Parce qu'il y a une semaine passée que je venais d'écouter les autorités en train de parler des rapatriements ou des relocalisations de ces victimes selon les milieux ou la ville où ils préfèrent rester. Or, la meilleure des choses n'est pas de les garder, et c'est de demander le point de vue de chacun. Celui qui veut aller habiter quelque part, on lui donne même quelque chose en titre de subvention pour qu'il soit aidé, qu'il reprenne la vie. Et aussi, à ce qui concerne leur intégration, ces gens viennent de très loin. Ils sont comme des nouveaux dans ces pays. Il serait mieux de constituer une équipe composée de psychologues, de médecins, en fait de les aider à retrouver l'intégration facile dans la société. Ce n'est pas ce qui se fait là, parce que nous avons tout un ministère de prévoyance sociale. Il serait mieux de les aider autrement. Parce que si nous voyons même dans notre constitution, dans l'article 16, 47 et 53, qui parle sur la valeur de la vie, de la santé de la personne humaine et de l'environnement, la personne devait juste habiter pour dire plus se protéger sa santé. Et maintenant, je m'avais posé une question.
Oui.
Bon, juste en rapport avec ce qui était comme la décision de relocaliser ces gens sur la province de leur choix. Et où sommes-nous avec cette décision ou ce projet?
Voilà, merci beaucoup. C'est la question que j'aurais posé au gouvernement par rapport à la réinsertion. Mais vous avez évoqué ce qui s'est fait. Cela veut dire qu'il y a des gens qui étaient, par exemple, partis de Bandundu, de Bakongo, de Goma, de Bukavu, de partout ailleurs pour aller au Congo-Brazzaville. Et vous souhaitez qu'on puisse vraiment rapatrier chacun dans son milieu d'origine selon aussi la volonté. Mais vous avez ajouté quelque chose dans la prise en charge, n'est-ce pas, des urgences. Il faut des équipes constituées, des psychologues, des médecins pour aider les gens à se réinsérer socialement. Quelqu'un qui a vécu plusieurs années dans un pays, qui avait déjà stabilisé sa vie et qui se retrouve d'un coup, il doit recommencer tout à zéro. Il faut aussi les équipes d'accompagnement, des psychologues et des médecins pour aider les gens à pouvoir se retrouver. Nous revenons à vous directement, docteur Richard Mukelenga. Vous avez dit qu'il y a un déficit au niveau, bien sûr, du tableau des contingences. C'est là, c'est une situation. Mais vous avez aussi parlé des habitudes individuellement. Et Richard de Kinshasa, tout à l'heure, parlait de l'absence de cet élan de solidarité qui devrait en principe accompagner les actions qui doivent être menées sur terrain, quand bien même au niveau de l'État, il y a des problèmes qui se posent. Mais pourquoi on ne sent pas dans la population cet élan-là des solidarités, cette organisation, cet engouement vers la prise en charge et l'aide pour ceux qui sont en difficulté, docteur Richard?
Oui, vous savez que l'homme, comme dit, je crois, Rousseau, l'homme est modifié par son milieu, par sa communauté. L'homme, il n'était qu'il est là, mais la communauté le manipule. Alors, maintenant, quelle manipulation ou quel encadrement subit le Congolais? C'est ça aussi, quand nous regardons ou nous écoutons ceux qui parlent de la nouvelle citoyenneté, lequel canevas ont-ils, tous ceux qui parlent de la nouvelle citoyenneté du Congolais? On devait commencer par la formation, par exemple, par rapport aux urgences et catastrophes. C'est un pays qui a connu des guerres depuis 1960, même avant 60, la guerre Louba-Louloua, depuis 1960, donc avant avant 60, même la guerre de Ngongolo-Teta et les autres là, c'était des guerres. Et puis après, donc 54 ans après l'indépendance, il y a toujours des guerres. Donc on doit intégrer la prise en charge du voisin par le voisin au niveau de la formation par rapport à la nouvelle citoyenneté. Ça, c'est... Deuxièmement, le sécurisme communautaire doit être aussi inscrit dans la nouvelle citoyenneté. Et troisièmement, l'élan personnel à faire certaines formations. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait la formation de gestion de catastrophes et des urgences parce que j'ai voulu ça. Mais pour vouloir ça, je suis parti d'un constat. Entre l'aéroport d'Njili et l'aéroport de Ndolo, vous savez que j'avais énuméré seulement 11 civières. 11 seulement. Avec tout ce que nous avons comme flux de véhicules montants et rentrants et descendants. Et il n'y a que 11 civières de part et d'autre du boulevard. Quand vous allez à l'hôpital, je ne cite pas le nom tel que Saint-Joseph, il n'y a que 4 civières. Alors, à quel niveau se situe le degré de compréhension de la gestion des catastrophes des responsables de ces hôpitaux tels que Bondeko et les autres là? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils ont un regard critique? C'est ça le problème. Alors, troisièmement, il faut aussi que le passé nous renseigne
quel passé? Passé de guerre, passé de catastrophes antérieures, passé de la gestion des catastrophes des autres, telles que ce qui s'est passé en Haïti, ce qui s'est passé à Kosovo, etc. Ça doit nous renseigner. Mais on reste, comme on dit, amnésique. C'est ça le grand problème. On n'évolue pas. Vous savez, le développement d'un peuple se situe dans la prévention. Qu'est-ce que nous prévoyons pour demain? Par rapport, par exemple, aux accidents de route, par rapport au déraillement des trains, qu'est-ce que nous avons prévu? C'est ça la question à se poser.
Voilà, docteur Richard, mais il y a aussi ces besoins. Voilà.
Les programmes, comme on dit, locaux, régionaux et puis nationaux.
Mais il y a ce souci d'avoir vraiment ces partenariats public-privé dans la gestion de ces catastrophes. Mais c'est aussi parce qu'on sent, quand on écoute les auditeurs, quand on regarde la situation sur le terrain et quand on vous écoute, on dirait que il n'y a pas les sentiments de responsabilisation. Cela veut dire qu'il n'y a personne qui dit, voilà, je suis responsable et de ça, voilà ce que je peux prévoir pour l'inscrire. Alors, faudrait-il le faire quoi? Partir du public ou partir du privé pour arriver vraiment à construire quand même des structures, construire quand même une vision, une compréhension de ce que nous devons faire pour réagir en cas d'urgence et de catastrophe.
Oui, il faut partir du public. Parce qu'il y a un adage du sage qui dit « Vox populi, vox Dei
».
Ce que le public, ce que le peuple a intériorisé, c'est ce que Dieu a intériorisé. Et ce que Dieu a voulu pour ce peuple. Mais chez nous ici, bien que les auditeurs aient cité la multiplication ou la multitude des églises dans chaque rue, etc., c'est comme si Dieu n'a pas parlé dans les cœurs des gens. Dieu parle peut-être des mariages et des voyages, je ne sais pas, en Europe, etc., ce qu'on nous enseigne dans les églises. Les jumeaux, etc., les mariages et tout ça. Mais Dieu n'a pas parlé aux Congolais sur des catastrophes. Je vous donne un autre exemple. Dans un ministère et église qui abonde les gens, j'avais parlé un jour de prépositionnement des civiens. On a fait accès par les amis avec qui j'avais partagé cette idée d'amener le démon des chutes que je prévoyais, des catastrophes. Vous voyez un peu ça? Regardez dans nos véhicules qu'on est en train de contrôler. Il y a combien d'extincteurs de flammes? Il y a combien? Alors, quand nous regardons dans la ville, ici, il y a des véhicules qui prennent feu. Il y a même entre Madimba et Kasangoulou, par exemple, une famille avait péri là-bas, calcinée, parce que ils ont fait un accident. Le carburant qui était dans un bidon sur la toiture d'un véhicule est tombé sur cette voiture et tout le monde était calciné. Tout le monde qui passait par là n'avait pas d'extincteur. Tout ça ne renseigne personne. C'est comme si le Dieu du Congo, les dieux que nous prions, c'est pour les mariages, les jumeaux, les voyages, acheter les véhicules d'occasion, ce que moi j'appelle, on ramasse dans les poubelles des autres, pour les présenter comme bénédiction. C'est ça le problème. Donc, vox populi, vox Dei, c'est que le peuple intériorise, c'est ce que Dieu veut. Le Congolais n'a pas intériorisé la gestion des catastrophes en aval. C'est pourquoi, en amont, il n'y a rien. Nous sommes désemparés. Quand il y a un événement, et puis chacun prend sa direction. Chacun ne veut pas regarder.
Oui.
Regardez comment nous traitons aussi, par exemple, les personnes vivant avec handicap. Pour monter dans le bus. Moi qui vous parle, j'étais aveugle pendant 7 ans. J'ai fui insulté de lundi à lundi, et pourtant, je sortais de ma maison pour aller donner aux Congolais, dans les radios qui m'acceptaient, ce que j'ai dans le cerveau, dans ma tête. Mais j'étais insulté de lundi à lundi par les transporteurs. Voilà. Pourtant, j'ai payé le billet. Qu'est-ce que le Congolais a intériorisé devant les événements tels que...
Voilà, ça dit que la veut dire. Voilà.
Maladie de la communauté, maladie de la personne.
Merci, docteur Richard. Cela veut dire qu'il faut profiter de la situation, tirer les leçons du passé. On a vécu des situations, des guerres bien avant, bien sûr, l'indépendance, vous l'avez dit, des guerres, des expulsions, et tout cela devrait en principe nous permettre de construire déjà une conception de l'intervention en cas d'urgence, en cas de catastrophe. Pourquoi pas aussi insérer cela dans l'éducation populaire, parce qu'il y a notre ami Richard qui le disait tout à l'heure, insérer aussi cela dans le programme scolaire, mais partir bien sûr de ce que les politiques doivent mettre comme moyen à la disposition de ceux qui doivent le faire. On vous garde en ligne, docteur Richard, parce qu'il y a Martin qui est à Lubumbashi et maître Gaston ici à Kinshasa, avec qui nous allons dégager les pistes des solutions pour arriver vraiment à consolider notre façon de gérer les catastrophes et les urgences. 081 890 4969.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Martin, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Terre.
Oui, dites-nous, si avez-vous un témoignage, hein, de quelle manière, une fois, peut-être dans Lubumbashi ou dans les Katanga, de manière globale, avez-vous eu à gérer, à faire face à une situation d'urgence, que ce soit une catastrophe, comme on a eu des témoignages en Bujuma et à Kalemie. Comment, quel regard avez-vous porté sur ces interventions-là?
Merci, monsieur Pierrot, pour la parole. Tout d'abord, je m'en vais compatir avec nos frères qui sont rapatriés du Brazzaville, ainsi que tous les autres compatriotes qui sont morts dans les déraillements des trains ici au Katanga, ainsi que tous nos frères qui ont eu à périr sur tous nos frères qui ont été répatriés en Ouganda, qui ont eu à périr sur
le lac,
oui. Tout d'abord, d'entrée de jeu, moi je voulais dire que je n'ai pas un témoignage à donner et que j'ai vécu personnellement. Néanmoins, je voulais intervenir par rapport à tous ceux qui nous sont arrivés cette année par rapport au drame. Je voulais dire ceci, vous savez, monsieur J.R., l'État congolais, il est le père de la nation, il est le père de tout le monde. L'État congolais doit savoir protéger toute la population qui sont au pays ainsi que ceux qui sont à l'extérieur du pays. Si nous voyons bien chaque fois quand il y a des drames comme ça, des catastrophes, notre État congolais arrive toujours à intervenir en retard, je ne sais pas c'est dit à quoi, et pourtant j'ai suivi même un auditeur qui a intervenu avant moi, il a dit, d'abord ici au pays, nous avons un ministère des affaires sociales. Et dans notre budget, il y a l'argent qui est alloué aux catastrophes. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'État congolais, chaque fois quand il y a des cas pareils, il intervient toujours en retard. Je ne sais pas si l'État attend toujours. Chaque fois quand il y a un drame comme ça, quand les gens parlent, les organismes commencent à parler, c'est ainsi que l'État doit savoir intervenir. Vous savez, dans des cas pareils, l'État congolais, nous avons une grande étendue, nous avons des grandes villes. Mais l'État doit avoir, dans des grandes villes, l'État doit avoir même des places publiques qui doivent être réservées, par exemple, dans des cas pareils, savoir là où on peut accueillir des gens qui viennent dans des situations pareilles. Mm-hmm. Hein? Mais l'argent qui est alloué pour des circonstances pareilles, mais chaque fois quand il y a des problèmes pareils, pourquoi est-ce que cet argent ne peut pas résoudre les problèmes immédiatement, chercher comment sécuriser la population? La population, c'est une ressource humanitaire. L'État doit savoir comment protéger la population. Mm-hmm. Mais nous déplorons chaque fois quand il y a des problèmes pareils, mais l'État intervient toujours en
toujours
retard.
En retard, merci.
L'État doit se prendre en charge.
En charge, oui. Merci beaucoup, Martin. C'est important ce que vous avez dit. Vous avez cette tendance que l'État, les interventions sont toujours tardives, mais on devait déjà agir en amont, avoir déjà dans chaque ville des places réservées pour accueillir des sinistrés, parce qu'on ne sait jamais, on peut arriver qu'un quartier soit inondé. Déjà dans une ville, on devait déjà savoir, en cas d'inondation, voilà là où nous pouvons loger les sinistrés, en cas d'expulsion par exemple, voilà là où on peut accueillir des enfants, là où les femmes enceintes peuvent être accueillies. Tout cela doit déjà exister en amont. C'est ce que notre invité a parlé du plan des contingences. Cela doit déjà exister, n'est-ce pas, dans chaque ville. Et quand il y a une situation qui arrive, on n'est pas surpris, comme l'a dit notre compatriote Franck, on a tendance à être pris en étau, mais là on pouvait déjà intervenir, savoir où accueillir, où loger ceux qui sont sinistrés. Merci beaucoup, Martin, pour cette proposition. Maître Gaston, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Merci, à vous aussi, bonjour.
Et on voit bien hein, les difficultés que nous avons quand il y a des cas de catastrophes, d'inondations, que ce soit des glissements de terrain, mais aujourd'hui avec des expulsions, tout cela pose un problème de la gestion de notre capacité à pouvoir gérer des cas d'urgence et des catastrophes. Pour vous, on tend vers la fin de l'émission, tout doit commencer par quoi pour réussir vraiment à organiser ces secteurs des catastrophes et des urgences?
Je pense que ça va commencer par le mental, hein, mais laissez-moi dire d'abord quelque chose. Je n'ai pas suivi tout le monde, disons, qui a parlé avant moi parce que j'étais en train de méditer. Excusez-moi, mais je ferai un effort pour être unique par rapport à mon argument. Je pense que chez nous, tout le monde peut venir, hein, venir faire ce que bon lui semble, sans être inquiété. Et puis, dans le mental des Congolais, vous savez que non, comme nous connaissons que tout le monde peut entrer chez nous sans condition, nous aussi on peut aller chez n'importe qui sans condition. Et mais je m'étonne qu'il y a des États qui nous font croire que chez eux, il y a des règles qui s'appliquent. Et puis chez nous, vous savez que nous avions hérité ça de l'époque coloniale. C'est la liberté qu'on a instaurée pour les territoires congolais et les Congolais. Les migrés, que j'appelle moi les migrés économiques, parce que on doit faire la différence entre réfugiés, et ceux-là ne sont pas des réfugiés, ce sont des expulsés, ce sont même pas des refoulés, ce sont des expulsés, ce sont des migrants économiques, mais moi je doute aussi de leur nationalité, est-ce qu'ils sont d'abord congolais? Il faut que l'État congolais puisse aussi se poser de telles questions, tous ces mondes-là qui enflent de partout, hein, partout dans nos frontières, soi-disant ils sont des Congolais. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont congolais? L'État doit demander la preuve de leur nationalité. Mais aussi, nous devons savoir que pour les cas d'urgence, notre État est comparable à une famille pauvre. Hein. Vous savez, dans une famille pauvre, lorsque les malades se présentent, la maladie se présente, on est voué à la mort par des atroces souffrances parce qu'on n'a pas de moyens. Donc, c'est les cas de notre pays, les imprévus, les cas d'urgence, donc ça arrive, ça traduit la pauvreté. Et nous qui sommes les enfants de cette. Nous devons subir tout cela. L'État doit faire un effort pour devenir riche, hein, et puis subvenir aux besoins, aux cas d'urgence qui pouvaient.
Merci, maître. Oui. Merci beaucoup, maître Gaston. Au-delà du débat sur comment résoudre cette question entre Congo, Brazzaville et Kinshasa, on pourra bien se retrouver dans Parole aux auditeurs le lundi. Mais quant à la situation des urgences, c'est que l'expression de la pauvreté, c'est, vous l'avez dit, quand il y a dans une famille pauvre, quand quelqu'un tombe malade, ces difficultés qu'on a de pouvoir l'amener à l'hôpital, l'amener aux soins, c'est ce qui représente aujourd'hui notre État. On doit faire un effort pour devenir riche. Et comme ça, on pourra faire face aux situations qui nous arrivent. On va écouter le dernier auditeur de cette émission, c'est Elodie, qui est à Guémena, dans la province de l'Équateur. Elodie, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour aussi à notre invité, M. Richard.
On vous écoute pour okay. Clôturer cette émission avec les auditeurs. Comment alors, à Guémena, dans la province de l'Équateur, on s'organise pour faire face aux difficultés qui arrivent, par exemple, comme des catastrophes, des urgences?
Oui, avant de parler de la situation de mon milieu, je vais revenir sur ce dicton, mieux vaut prévenir que guérir.
Mmh.
Et ce dicton, pour nos dirigeants, je pense que ça n'existe pas. Parce qu'ils ne savent que chercher des petites solutions lorsque des cas graves surgissent. Par là, je vais dire ceci. Prenons un peu ces trois exemples. Je vais aller vite. Hein. Il faut qu'il y ait combien de déraillements pour que le gouvernement se réveille et sache que nos rails, nos trains, les personnes qui conduisent ces rails ont des problèmes, qui trouvent des solutions à ça. Ou bien il faut qu'il y ait combien de naufrages pour que le gouvernement, tant national que provincial, sache qu'ils doivent prendre des dispositions pour prévenir les naufrages, comme j'apprends que le gouvernement du Nord Kivu a doté des gilets de sauvetage et d'autres matériels pour prévenir des naufrages. Et aussi, il faut qu'il y ait encore combien d'accidents routiers pour qu'on organise des contrôles des véhicules et des chauffeurs, comme c'est le cas à Kinshasa. Donc par là, je veux dire que nos dirigeants congolais ne savent que c'est de maintenant trouver des solutions au lieu de prévenir. Ils attendent qu'il y ait des milliers de dégâts pour qu'ils préviennent tout ce qui arrive. Et je vais dire ici à Guémena, notre gouvernement provincial, à travers son ministère d'Affaires sociales, soutenu aussi par le ministère national d'affaires sociales, ces derniers temps, ils sont en train de venir en aide aux personnes qui sont dans les catastrophes. Par exemple, quand il y a eu des tribus sur la ligne de Boudjala, les Ngwaka et les Ngwandi qui avaient des sérieux problèmes, il y a eu des morts, il y a eu des maisons brûlées. J'ai vu une délégation de l'équipe du ministère d'Affaires sociales nationales venir les soutenir. Et le cas le plus récent, c'est lorsque la foudre est abattue sur une école ici qu'on appelle Lumière. Je pense que vous avez appris ça, non, Pierrot?
Oui, c'est passé sur les antennes, bien sûr.
Il y a aussi, oui, il y a aussi un soutien de la part de nos députés, du gouvernement provincial, du gouvernement national.
Merci,
mais
merci
que
beaucoup.
Je déplore, comme les autres, c'est qu'il faut que nos gouvernements préviennent les dégâts au lieu de
gérer les conséquences. Voilà, merci.
Surtout si ça concerne les vies humaines.
Merci beaucoup,
parce que les vies humaines n'ont pas de prix.
Merci. Merci beaucoup, Elodie. Voilà. C'est vraiment important. Merci d'avoir clôturé cette émission au nom des auditeurs. On revient à vous, docteur Richard Mugelinga. On a suivi les uns et les autres. Alors, de toutes ces catastrophes, de ce qui est arrivé aujourd'hui, En une minute et demie pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'avenir pour de la manière dont nous devons être à mesure de gérer les urgences et les catastrophes? En une minute et demie pour conclure, docteur Richard.
Oui, merci beaucoup. Je pourrais dire ceci, il faut que les gens travaillent plus en amont. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut que ce travail soit accompagné de l'argent mis de côté et des matériels mis de côté. Il faut un pourcentage qu'on doit dégager. Troisièmement, quand il y a un problème, il faut que ce qu'on a mis de côté puisse aider. Je prends à titre d'exemple, étudiants, nous sommes allés en rébellion contre Mobutu, et dans notre rébellion, en père de famille, Mobutu nous avait nourris pendant 7 jours à l'université de Kinshasa ici. Donc, il y avait tout qui était prévu. Tout. Ça venait par hélicoptère, on déposait et tout le monde avait mangé. Et ceux qui avaient des familles à aider à la cité, parce qu'on avait une boîte de lait, de je ne sais pas, le gros là, par jour, les gens ont amené du lait dans leurs familles. Donc, il faut qu'on prépositionne les intrants de prise en charge. Il faut qu'on prépositionne les personnes, comme on dit, les volontaires d'abord, et puis les personnes formées.
Merci, docteur Richard.
Les gens dans la communauté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste en santé publique et diplômé en gestion de catastrophes et urgences. Merci à tout le monde pour votre fidélité à cette émission Parole aux auditeurs. Voilà. On parle aux auditeurs, vous retrouve le lundi prochain. Nous allons rester dans cette actualité liée bien sûr à la situation des expulsions de Congolais des Brazzaville. Hein. Plusieurs réactions, les étudiants ont marché à Kinshasa, des réactions à l'étranger. Les gens réclament des solutions et la question pour notre échange de lundi prochain, quelle serait pour vous la solution idéale sur les plans diplomatiques entre Kinshasa et Brazzaville? On se retrouve le lundi à 11h03, heure de Kinshasa. Merci à Willem Lungaba qui nous a aidé à mettre en onde cette émission, coordonnée et réalisée par J.R. Lungembo. Pierrot et la Meiji vous la présenter sous la supervision de Nicole Ngaka. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs ce soir à 9h, à 20h03 de Kinshasa. Et je vous souhaite un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. On se retrouve dans les prochains jours après quelques jours de vacances. Merci et au revoir.